En 1918, le clairon sonne l'armistice. Le 11 novembre 1918, à 16h, celui qu'on appelle le Tigre monte à la tribune de l'Assemblée nationale et s'apprête à lire les clauses de l'armistice. Depuis un an, Georges Clemenceau a repris la France en main. Il n'a qu'une seule mission, faire la guerre jusqu'à la victoire. Il est le père de la victoire. Le vainqueur, nous dit-il, c'est celui qui peut en un quart d'heure de plus que l'adversaire croire qu'il n'est pas vaincu. Telle est sa maxime de guerre. Il lui faudra y croire de toutes ses forces lorsque le 3 mars 1918, l'Allemagne signe le traité de paix avec la Russie soviétique à Brest-Litovsk. Désormais, l'Allemagne impériale concentre toutes ses forces sur les lignes alliées à l'ouest. Face aux divisions allemandes, les effectifs de l'armée française sont nettement inférieurs et les Américains tardent à arriver en France. Il faut tenir. Situés à 120 km de Paris, les Allemands pilonnent la capitale avec la grosse Bertha, ce canon qui terrorise les Parisiens pendant plusieurs semaines. L'heure est grave, confie le Tigre à Poincaré. Mais il ne faut pas faire la paix, il faut tenir. Dans les jours qui suivent, le maréchal Foch réussit à limiter l'avance allemande. Le 26 octobre, le Kaiser Guillaume II demande sa démission à Ludendorff, général en chef des armées allemandes, partisan de la guerre totale. Du 29 octobre au 4 novembre 1918, les chefs alliés sont réunis à Paris pour discuter des conditions de l'armistice. Foch refuse de négocier avec la délégation allemande, c'est à prendre ou à laisser. En même temps, la révolution éclate en Allemagne. L'empereur Guillaume II abdique, son fils renonce au trône, le chancelier allemand est renversé. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, à 5 heures du matin, on accepte les dernières modifications des conditions de l'armistice. À 11 heures, elles entrent en vigueur. Clemenceau n'est pas dupe de la tâche qui l'attend maintenant et il confie. Nous avons gagné la guerre, et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être le plus difficile. Le 18 novembre 1918, quelques jours après la signature de la fin du conflit, Clemenceau fit demander sa voiture et se dirige vers Giverny. Arrivé devant le perron de la maison, il tendit les bras vers le peintre, son ami. Sans parler, Monet marcha vers lui et demanda simplement « C'est fini ?»« Oui. » Et les deux hommes, si grands, s'embrassèrent en pleurant dans ce jardin d'automne où les roses s'étaient retenues de mourir. Vingt millions de morts, soldats et civils, alliés et empires centraux. Parmi les 135 000 tirailleurs sénégalais, 30 000 ne reviendront pas chez eux. Mais ce sont aussi les artistes, les écrivains tombés en héros au champ d'honneur. Charles Péguy, Alain Fournier, le peintre expressionniste allemand Auguste Macke, Franz Marc, Ernst Adler. Et puis ceux qui reviennent, abîmés, à jamais. Le pianiste autrichien Paul Wittgenstein perd son bras droit. Maurice Ravel lui dédie son concerto pour la main gauche. L'écrivain Blaise Sandrart perd lui aussi son bras droit. Guillaume Apollinaire, trépané. Louis-Ferdinand Céline, Henri de Monterland, blessé. Les écrivains britanniques Carol Lewis et américains Ernest Hemingway, blessés par des éclats de mortier. Le poète Jean Giono, gazé. Le peintre autrichien Oskar Kokoschka, grièvement blessé. La fin de la guerre, c'est aussi la mort d'Apollinaire, de Claude Debussy, de Modigliani. Une fois l'armistice signé, il faut réinventer la vie. Pour les peintres, c'est parfois le silence qui s'impose. Braque ne peut pas peindre cette guerre. Le peintre allemand Otto Dix, lui, peindra l'horreur de la guerre. Mais comment ne pas la trahir ? Le cubisme parlera pour lui, pour exalter la vie, plus forte que tout. Mais plus tard. Puis les couleurs peu à peu reprennent la parole. Même chez Matisse, restée à l'arrière, elle s'était éteinte. Pour Fernand Léger, la guerre était déjà cubiste. Pour trouver la lumière après les heures sombres, certains se tournent vers l'insouciance des années folles, pour oublier. D'autres se recueillent et commémorent le souvenir de leur mort. La Marseillaise est tantôt chantée avec fierté, tantôt avec douleur. Pour les compositeurs, le recueillement est dans le lamento, l'élégie funèbre. On éprouve aussi le besoin de musique sacrée, des requiem, des marches funèbres, des cantiques, des prières sont alors composées. Car les célébrations de la victoire ne peuvent aveugler la tristesse et le désespoir d'une population face à ses morts, à ses décombres, à ses blessés. Le réveil du sentiment religieux est alors une étape fondatrice et rédemptrice de l'art. Un parcours spirituel guide ainsi les musiciens et les peintres, de l'ombre à la lumière, des doutes et des inquiétudes à la sérénité. Les œuvres d'art qui naissent de cette guerre expriment un même cheminement intérieur. Une quête vers un retour à l'ordre, vers un paysage de paix, vers une renaissance de l'être. Mais surtout, ne pas oublier.